Je parlais de, donc, j'ai intitulé ça Proust, Proust chez Simon. J'ai pensé à Véronèse. Mais je ne vais pas aujourd'hui parler de mon rapport personnel vraiment à Claude Simon, ce sera plutôt pour demain, mais c'est plutôt donc en tant qu'universitaire non spécialiste de Proust que je vais essayer de, rassembler les deux œuvres, de dire quel pont on peut faire entre l'une et l'autre. Alors qu'il se définissait essentiellement dans les années 60 par son refus de l'illusion référentielle, le nouveau roman reconnaissait en général, dans l'œuvre de Proust, une étape dans le détournement de la représentation du réel, arguant en 1964 que la parole est le contenu du nouveau roman. Ludovic Janvier opposait celui-ci à Balzac et à Dostoïevski, qui nous demandait de croire au monde qu'il nous offrait, moins à Proust, qui déjà nous parlait. C'était certes pour ajouter que cette parole, à travers laquelle se donne à la recherche du temps perdu, conserve sa fonction médiatrice, orientée par la voie individuelle de la quête du héros, alors que le monde du nouveau roman, précisait Ludovic Janvier, se profère nu, immédiatement, anonyme, en même temps que les signes s'alignent sur la page blanche. S'il est douteux que cette dernière proposition s'applique aux romans de Claude Simon, qui sont, selon ses propres termes, plus ou moins à base de vécu, et dont, dans ce même texte, Ludovic Janvier reconnaissait le cas particulier, on sait que celui-ci a tenu à marquer à plusieurs reprises la fascination qu'exerçait sur lui l'œuvre de Proust. Pour illustrer sa conception métaphorique de l'écriture, sa vision du mot comme nœud de signification ou du fait littéraire comme transfert d'un objet de sa perception habituelle dans la sphère d'une nouvelle perception, Claude Simon a plusieurs fois proposé l'exemple proustien du poisson dans son plat posé sur la table du restaurant du Grand Hôtel de Balbec. En effet, par le seul pouvoir de la langue, note-t-il, dans une conférence de 1980, ce poisson bouilli, posé sur un plat, se trouve soudain arraché à son contexte spatial et temporel pour être transporté dans un cadre aux tout autres dimensions, profondeur marine, commencement de la vie, concept de construction, de nature, de plan d'architecture, de cathédrale. D'Allenbach a rappelé le débat qui motivait ces lignes enthousiastes. Simon partait en guerre contre l'idée selon laquelle les descriptions seraient statiques, idée spectaculairement démentie par la description proustienne, dotée ici d'un dynamisme et d'une surdétermination extraordinaire, puisqu'en plus du transfert qu'elle accomplit, elle exemplifie la vie profonde des natures mortes, emblématise le livre cathédral qu'est la recherche, démontre en acte la métaphoricité foncière de l'écriture proustienne et, par association thématique, chromatique et onomastique, convoque non seulement la mer, les Cimériens renvoyant au pont Euxin, autre nom de la mer Noire, mais Albertine et surtout le sexe d'Albertine, Simon indiquant à titre d'indice ou de preuve supplémentaire qu'après avoir évoqué les cris de Paris, Proust concluait par une phrase à double entente qui nous ramène au poisson, huîtres et moules de Balbec. On pourrait évidemment contester la condensation qui attribue au seul passage auquel se réfère Simon un faisceau de signifiance dont la composante sexuelle, d'Allenbach le signale d'ailleurs au passage, ne se dessine que dans un ensemble beaucoup plus vaste, comportant au moins 1000 pages plus loin, celui des cris de Paris. Aussi suggestive soit-elle, cette lecture du poisson cathédral prend quelques libertés avec la diégèse proustienne. Du point de vue de l'apprentissage du héros, ce passage de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » illustre en effet la phase initiale de sa fixation fantasmatique à un Balbec tempétueux, cimérien et pour tout dire romantique, qui lui rend sordide ce moment où les couteaux traînent sur la nappe. Il faudra la leçon d'Elstir, le peintre, pour qu'il voie aussi la beauté dans des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer. Mais ce passage m'intéresse aujourd'hui à un autre point de vue, car il est clair qu'à la glose de la glose d'une phrase de Proust par Simon, se superpose, sous la plume d'un de ses plus avisés critiques, une référence implicite au processus de l'écriture simonienne. Ricardou avait jadis signalé, dans La Route des Flandres, l'importance de la catégorie de l'hybride. Mon propos appartient peut-être ce soir à cette catégorie, en ce sens qu'il ajoute à mes propres idées sur ce sujet un panorama de son traitement dans la critique simonienne. Je justifierai cet amalgame au nom d'une stratification d'ordre méthodologique. Pour apprécier les rapports complexes de l'œuvre de Claude Simon et de celle de Proust, il faut, je crois, les analyser aux divers niveaux où nous pouvons en saisir les traces, niveaux qui, bien entendu, s'interpénètrent, mais qu'il faut d'abord considérer séparément. Le premier sera ce que Simon lui-même a dit de l'œuvre de Proust ou a écrit à son propos. Il témoigne incontestablement d'une grande admiration, mais aussi de réserve, et il en privilégie certaines parties. Un examen même sommaire des articles, conférences et entretiens de Claude Simon montre que Proust constitue de loin sa principale référence littéraire. Dans un entretien de 1992, rappelant à nouveau l'importance que revêtent dans sa propre écriture les conjonctions et les combinaisons, Simon invoque cette fois la description du banquier Nissim Bernard assis dans le grand hôtel de Balbec. Il est à la fois Nissim Bernard et un taureau de Suse à la barbe annelée. Les évolutions autour de lui des jeunes grooms homosexuels, sikhs, c'est une exagération, évoquent pour Proust les suivantes d'Athalie. Presque tous ces exemples proviennent de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et plus précisément de l'épisode de Balbec. Ce fait doit-il être rapproché de l'admiration sans bornes que, selon d'Allenbach, Simon vouait à l'émergence progressive d'Albertine à partir de la nébuleuse de la petite bande, elle-même indivise de la plage sur laquelle elle se déploie et s'offre pour la première fois au regard médusé du jeune héros. C'est à un passage de Balbec II, dans Sodome et Gomorre, que l'auteur du Jardin des Plantes se référera encore dans un entretien avec Philippe Solers en 1998. Son enthousiasme porte cette fois sur un thème en apparence fondamental aux deux œuvres. C'est une des choses les plus extraordinaires qu'on ait faites en littérature, cette sensation du temps qui passe, marquée par les changements de couleur des mouettes nymphéas, c'est prodigieux. On peut voir dans cette remarque une sorte de variante de celle que Proust fait de sa psychologie dans l'espace. Ainsi, écrivait Proust, les divers aspects qu'un personnage aura pris aux yeux d'un autre, au point qu'ils auront été comme des personnages différents, donneront, mais par cela seulement, la sensation du temps écoulé. Simon dit « sensation du temps qui passe ». Proust dit « sensation du temps écoulé ». Nous reviendrons sur cette variante. Aiguillonné ou non par ces marques d'admiration, la critique n'a pas manqué de rapprocher Claude Simon de son illustre devancier. C'est le second niveau, celui de la comparaison des deux œuvres, exercice qui amène à souligner des différences dont on ne s'étonnera guère. D'un côté, un roman architecturé en plusieurs tomes, de l'autre, un ensemble de romans, à la fois indépendants les uns des autres, est doté d'une forte intratextualité puisqu'il se présente comme autant de variations sur un certain nombre de thèmes, de personnages, dont les noms peuvent changer, de scènes reconnaissables, au point qu'on a pu regrouper certains d'entre eux dans un cycle du cavalier et dans un cycle du père. Sur le plan de l'histoire comme sur le plan de la diégèse, la narration essentiellement chronologique et fortement rétrospective de « À la recherche du temps perdu » appartient à une conception du récit dont se démarque la génération par analogie et la progression au fil du texte, à laquelle Jean-Paul Gou faisait allusion tout à l'heure, en signalant que les articulations syntaxiques prédominent chez Simon sur les articulations du récit. En multipliant les hypothèses, et malgré la résurrection de Combray, Proust a peut-être été le précurseur de l'idée qu'aucune histoire n'est restituable dans son intégralité cohérente, impossibilité que s'exerce à montrer par leur structure même des romans comme « L'emploi du temps » de Butor, et que Simon, désigné d'emblée par le titre de certains de ses livres ou leur sous-titre. « Le vent » a pour sous-titre « Essai de restitution d'un retable baroque » et « La route des Flandres », si l'on en croit les brouillons, devait initialement comporter un titre du même genre. Cependant, Proust ne met pas en doute les pouvoirs du langage à rendre compte de cette vérité toujours fuyante. L'addition des adjectifs ou autres vocables, si caractéristiques de l'écriture proustienne, ne se fonde pas sur les mêmes motifs qui font de la figure de l'épanorthose, c'est-à-dire cette figure qui consiste à essayer de préciser ce qu'on dit, l'une des clés de l'écriture de Claude Simon, laquelle pourrait être illustrée par cette assertion de Cioran, l'indigence du langage rend le réel inintelligible. N'était évidemment l'écriture, qui selon les termes de Mallarmé, rémunère, en tâtonnant, sans le dire Simon, le défaut des langues. En outre, en regard de la résurrection de Combray par la petite Madeleine, le passé demeure pour Simon un étang qui se dérobe. Dans La route des Flandres, le ressassement obsessionnel du souvenir traumatique donne d'emblée à celui-ci le caractère d'une indicible et monstrueuse énigme. Le mot a été prononcé par mon prédécesseur à cette table. Il en est de même pour la voix narrative. Proust l'a sans doute complexifiée. On a pu dénombrer 7 niveaux du jeu proustien. Mais, passons du jeu au il, Simon accuse dans cette même route des Flandres des fluctuations d'une ampleur inédite dans l'histoire du genre romanesque. La présence concomitante d'une voix narrative de première et troisième personne a soulevé de nombreuses hypothèses, dont celle formulée par Merleau-Ponty de l'apparition d'une nouvelle voix. En outre, le statut et la fonction du souvenir s'opposent chez les deux auteurs. C'est ce que soulignait en 1980 Guy Charnot, dans le numéro du Yale French Studies consacré au nouveau roman. Jouant sur la shakespearienne mais erronée traduction du titre de la recherche, sous laquelle, pendant des décennies, celle-ci fut présentée aux lecteurs de langue anglaise, In Remembrance of Things Past, et pour mettre l'accent sur l'importance chez Simon du participe présent, cet article s'intitulait In Remembrance of Things Passing. C'est la différence, déjà notée, entre le temps écoulé et le temps qui passe. C'est qu'il n'y a chez Simon aucune recherche du temps perdu. On l'a noté à propos du vent et d'histoire. Plutôt que de considérer Claude Simon comme un écrivain de la mémoire, nouveau Proust donnant la première place au souvenir, écrit Gossel, il vaut mieux dire que la mémoire, l'imagination, sont la justification, l'alibi dans la fiction, des pouvoirs créateurs de l'écriture. Le changement de fonction des schèmes traditionnels de la pensée créatrice amène ainsi le critique à transférer sa comparaison dans la sphère stylistique puis esthétique. Une conception analogue d'un style substance et une esthétique de la fusion unissent profondément les deux écrivains. Dans Esthétique de la ponctuation, Isabelle Sersa a montré ce qui, stylistiquement, rapproche et différencie les deux œuvres. Partons de l'observation bien connue de la longueur de leurs phrases, d'ailleurs bien plus considérable chez Simon que chez Proust, mais certaines de ces phrases ne sont pas véritablement des phrases, elle les englobe d'abord sous la dénomination commune d'auteur à parenthèse. Du point de vue de la syntaxe, qui est le sien, c'est en effet au niveau de la phrase qu'il faut se placer pour observer le travail sur le temps qui leur est commun. Ces parallélismes prennent parfois la forme d'extrapolation à partir d'un roman spécifique. À propos d'histoire, Véronique Gossel maintient l'hypothèse locale d'un dialogue avec le texte proustien, à partir duquel s'expliquerait le choix de certains motifs symboliques pour le commencement du roman. Dans Histoire, l'intérêt de l'enfant pour les fleurs lors de la cérémonie religieuse et sa recherche obstinée de l'odeur serait un rappel de Proust et une réponse à celui-ci. L'indication « mais ce n'était pas elle qui sentait tellement » montrant que ce mode de connaissance paraît désormais impossible. D'où une nouvelle démarcation de caractère plus général, et qui à mon sens reste très hypothétique, au refus proustien de la représentation s'oppose le privilège de Claude Simon pour la vue, la prolifération du décor visuel, et non olfactif. Proust, enfin, est chez Simon, Proust est chez Simon d'une troisième façon, qu'il faudra peut-être relier, en certains cas, à ces effets que Harold Bloom a étudiés dans la poésie anglo-saxonne et classés comme des symptômes de ce qu'il nomme « the anxiety of influence ». Je veux évidemment parler de ces extraits de la recherche que, dans une pratique du collage, héritée des avant-gardes du XXe siècle, et qui d'ailleurs ne se limite pas à Proust, Simon introduit dans certains de ses textes. La bataille de Pharsale, le jardin des plantes, le tramway. Ce corpus citationnel ajoute une strate spécifique à celle que je viens de passer en revue. Les rapports de Simon et de Proust s'affirment ainsi dans une phénoménologie complexe où, aux signaux d'un dialogue textuel, se mêlent des traces d'influence stylistique, des thématiques partagées, des conceptions communes sur les questions essentielles du rapport au monde, à la langue et au temps. Si on les considère du point de vue de ce clivage, c'est-à-dire celui du visible et de l'invisible, de l'explicite et de l'implicite, ou dans un dégradé allant de la citation, le plus explicite, à l'allusion et de l'influence à la rencontre fortuite, les rapprochements entre Simon et Proust, faits par divers critiques, tendent à être d'autant plus forts qu'ils s'expriment en termes vagues, généraux, et à propos de ces romans qui ne comportent pas de citations de la recherche. Ce rapprochement ne peut évidemment être effectué que par un lecteur qui, familiarisé avec les deux œuvres, retrouvera des éléments de l'une dans l'autre. Au-delà des exemples d'inspiration directe, rapprochant un certain nombre de scènes, il s'agira d'une similitude inattendue entre certains personnages, d'une expérience psychologique commune, caractérisée par la perception dramatique du monde, monde mouvant que travaille un temps destructeur, ou encore la passion partagée pour le problème d'une perception vraie et le même procès intenté aux tendances abusivement simplificatrices de l'intelligence. Sarkonak est un de ces rares critiques qui semble distinguer entre l'influence que Proust exerce sur Simon et l'usage intertextuel qu'il a fait de son œuvre. La citation ou le collage proustien serait-il paradoxalement chez Simon le signe d'une tension vis-à-vis de Proust? Notons que c'est à propos de textes qui ne comportent pas de citation de la recherche que les analyses de Sarkonak paraissent le plus fortement conclure à l'influence de Proust sur Simon. Ainsi, de l'Acacia, 89, qu'il juge véritablement proustien. Et où, écrit-il, la référence proustienne s'impose avec la force outrecuidante d'une véritable évidence, qui reste, à mon avis, très problématique. Ou encore, à propos de l'album d'un amateur, dans cet album, comme dans ses romans, Simon s'est donné en toute évidence, c'est toujours le mot d'évidence qui revient dans ces cas-là, pour but, non de copier Proust, mais de l'imiter. en faisant autre chose, ce qui est le plus grand compliment qu'un écrivain puisse faire à un autre. Nous entendons sans doute dans cette phrase une variante du texte proustien où il était dit qu'il réécrirait, puisque le texte proustien est à venir, qu'il réécrirait les Mille et une nuits et les mémoires de Saint-Simon, d'une autre façon. Autrefois, je restais tard au lit et j'étais bien. L'insipide de la corde raide, 1947, pseudo-citation ironique de la première phrase de Combray, inaugure la référence oblique à Proust dans l'œuvre de Claude Simon. La phrase est transformée, mais dans cette transformation, on entend le rythme. 2-8, longtemps je me suis couché de bonne heure. 3-10, autrefois je restais au lit et j'étais bien. C'est le même rythme. Il est peut-être prudent. Mon texte, c'est une incitation à la prudence, essentiellement. Il est peut-être prudent de ne pas mettre sur le même plan ce double écho que les hypothétiques doublés onomastiques de la recherche qui figuraient déjà dans Le Tricheur en 1945. Oncle Charles, la petite Odette. C'est quand même pas grand-chose. Cependant, il est vrai que la reprise de ces vocables dans plusieurs œuvres ultérieures pourrait confirmer leur indexation proustienne. Ce pauvre Charles, que l'on retrouve dans Histoire, où O désigne le narrateur, et dans Leçon de choses, ce pauvre Sainte-Verte, Charles, Élodie, Odette. Autrement dit, se confirme, pour ainsi dire, la référence proustienne se confirme rétrospectivement et devient ainsi une espèce de strate de l'intratextualité simonienne. D'où la tentation de la lire comme une histoire, ou du moins une trace de l'influence de Proust sur Simon. Deux pages d'histoire peuvent être, en outre, interrogées en ce sens. Il s'agit de déchiffrement d'inscriptions latines dont la première paraît à la page 118 du roman. Et alors, quel orgueilleux Marcel, avec deux L, vainqueur ou quoi, divin, et Marcel est divin, sont en majuscules, illisibles ou usque. Et le second, tombeau de Marcel, qu'il y a stab us, us. Associé par leur contexte à la problématique de la fuite du temps, c'est-à-dire le contexte proche de ces citations dans lesquelles ces citations sont introduites, ces inscriptions, selon Véronique Gossel, exprime l'ironie de la référence à Proust. Vainqueur ou quoi, qui accompagne la première, peut signifier « Marcel a-t-il été victorieux dans sa recherche du temps perdu ?» Mais il est surtout orgueilleux pour avoir voulu laisser un monument. Quant à l'adjectif « illisible », il ne s'appliquerait pas seulement à l'inscription, mais rappellerait un grief fréquemment répété contre l'écriture de Simon, autant que celle de Proust. Or, la bataille de Pharsale, qui suit immédiatement Histoire, fait apparaître le même prénom sous forme de graffiti. À part un nom, Marcel, griffonné au crayon, Gossel, qui note cette occurrence, cite également le commentaire d'un autre critique, « Marcel est le seul nom lisible sur le mur de Simon. » Il me semble que c'est aller vite en besogne. Son effacement représentera la libération de Simon par rapport à son prédécesseur. On peut se demander ici si ce n'est pas le spécialiste de Simon qui formule son propre désir exégétique. Ce qui, à première vue, distingue Pharsale des œuvres antérieures, c'est le collage d'un ensemble de fragments de la recherche qui, lui, ne peut être relié à une simple réminiscence de lecture. Sans doute, celle-ci est-elle suggérée sur le plan diégétique, puisque le narrateur de Pharsale, de la bataille de Pharsale, apparaît à la fois à la recherche du site de Pharsale et d'une phrase qu'il se rappelle avoir lue dans La recherche du temps perdu et qui se trouverait probable, en haut à droite, sur une page de droite en haut. Fort répondu chez Simon, la citation, le corpus citationnel serait-il en rapport avec les principaux thèmes du roman, comme l'était par exemple, dans les Géorgiques, la réécriture de Homage to Catalonia, l'hommage à la Catalogne, de George Orwell. On a tenté de justifier l'intertexte par les thèmes communs de la jalousie et de la guerre, mais aussi de la sexualité et du temps, en soulignant à chaque fois les différences qui, sur ces thèmes, opposent les deux auteurs. Quant au corpus proprement dit, il paraît peu représentatif de l'œuvre proustienne, sauf le Rédillon et l'allusion, le Rédillon, le petit Rédillon de Tansonville, près de Combray, qui joue un rôle très important dans la recherche, sauf le Rédillon et l'allusion à l'asthme, note François Rossum-Guillon, qui en a fourni la première description. Les prélèvements effectués par Simon ne se rapportent pas à des scènes ou des thèmes typiquement proustiens. Devrait-on donc y voir plutôt une lecture simonienne de la recherche? C'est à cette perspective que se rattache l'étude de Georges Rayard de 1987, qui, partant des trois étranges cylindres qui figurent dans ce centon de citation, se rapporte aux coiffures féminines du temps de guerre que Proust évoque dans Le Temps retrouvé et que Rayard va relier aux anamorphoses proustiennes, aux êtres monstrueux que la dernière page de la recherche substitue aux êtres vus par le regard commun, c'est-à-dire ces géants enfoncés dans le sol par la durée de leur vie. C'est cette anamorphose que suggérerait encore le narrateur proustien quand il invoque pour son livre les deux images opposées de la cathédrale et de la robe, se différant entre les modèles qui fait toute la recherche, dit Rayard, ensemble et fragments, géométrie et continuité aléatoire, pris dans une fugitive nécessité. Mais au-delà de cette image, c'est le traitement de l'intertexte, de ces fragments détachés de leur origine proustienne, que Rayard interprète comme signaux d'alerte dans l'espace de la représentation. On peut dire que cette thèse pourrait se ranger, en effet, dans la lignée, dans une lignée proustienne de l'hommage et du dépassement, si on se souvient que très vite, dans les Cahiers de Brouillon, Proust fait allusion au double amour de la Sylvie de Nerval et qu'il dit que moi je vais en faire cinq. Selon Rayard, en effet, les chapitres ultérieurs du roman constituent un voyage dans les systèmes de représentation d'Uccello à Duchamp. Là, je décroche un peu, je dois dire. De Golo à Simon, note-t-il, dans une allusion à la lanterne magique, c'est le fond qui est attaqué, une transvertébration généralisée qui est en vue. On a aussi noté que ces citations éparses étaient difficiles à identifier à cause des changements de ponctuation et surtout des ellipses. Cette constatation pourrait nous inciter maintenant à voir l'intertexte proustien non pas donc comme un texte décelable, comme c'est le cas des citations, mais comme un filon caché dans le roman. En réalité, ces interventions sur le texte de la recherche sont indissociables d'un processus plus général que Sarconac, déjà cité, a nommé « simonisation » de l'intertexte et qu'il convient de considérer maintenant. Il s'effectue à la fois dans le contexte proche, c'est-à-dire dans la phrase elle-même, et dans la grande syntagmatique du roman, c'est-à-dire dans la structure même du récit. Alors je lis le passage suivant de la bataille de Pharsale. Jalousie, page de droite, vers le haut, environ le premier tiers. Coiffée de ses hauts cylindres, édicule Rambuteau, s'appelait des pistières, sans doute dans son enfance, n'avait-il pas entendu l'eau, et cela lui était que nous appelions le Rédillon aux aubépines, et où vous prétendez que vous êtes tombé dans votre enfance amoureux de moi, alors que je vous assure, main sur le kimono, sa bouche disant dans la mienne, oui, 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 oreille, qui peut voir, moiteur. Enchaîné par des associations qui se rattachent au motif de la jalousie, ces fragments de la recherche tronqués et mêlés à des fragments propres à Farzal ne s'agencent pas seulement selon une référence sémantique. Pistière, le lapsus d'écoute attribué au maître d'hôtel de la famille du héros, devient, selon Sarconac, un générateur du phonème absent O, pissotière, qui se retrouve ici dans O, rambuto, lo, aubépine, kimono. Véritable refonte de la matière langagière telle qu'a été travaillée par Proust, ce passage du texte simonien aurait en outre un effet producteur à plus long terme, la lettre O apparaissant alors dans un autre contexte diégétique. Lecteur de Proust, le protagoniste de la bataille de Farzal confirme l'importance, lecteur de Proust puisqu'il est à la recherche de ce passage dont il ne sait plus où il se situe, le lecteur de la bataille de Farzal confirme l'importance privilégiée de « À la recherche du temps perdu » dans l'abondante intertextualité qui prend souvent chez Claude Simon la forme d'un collage. Cette forme particulière de la citation proustienne marque-t-elle une évolution dans l'admiration que Simon a maintes fois professée pour l'œuvre de Proust? Cette perspective fait l'originalité du travail d'une chercheuse britannique, Mary Orr. Elle questionne le surgissement du corpus proustien à un certain moment de l'œuvre simonienne. Du tricheur à la bataille de Farzal, elle recense, sous la catégorie générale des références à Proust, les similitudes, les emprunts, les allusions, mais aussi les distorsions et autres marques de ce qui semble être une confrontation avec le modèle. Sans les distinguer vraiment des citations proprement dites, telles qu'elles apparaissent dans Farzal, Orr attribue aux parodies du protagoniste ou aux caricatures du récit proustien deux valeurs opposées ou conflictuelles. Plus clairement qu'en aucun autre texte précédent de Simon, elle marque, selon elle, la présence stylistique du précurseur et par leur abondance même l'intensité du conflit. La jalousie attribuée au narrateur de la bataille de Farzal aurait pour origine celle de l'écrivain. En témoignerait le traitement qu'il fait subir au texte proustien, vis-à-vis duquel l'indépendance enfin acquise s'affirmerait dans la troisième partie du roman, où, de l'intertexte proustien mis en pièces, ne subsisterait plus qu'un champ de mots générateur, parmi d'autres, du texte simonien. Étayée par de nombreuses analyses de détails qu'il n'est pas possible de citer ici, cette étude, publiée, je le rappelle, en 1993, pouvait voir sa thèse confirmée dans l'usage à la fois post-proustien et spécifiquement simonien de l'association dont témoignent les Géorgiques et surtout l'Acacia, 1989, roman à la fois ouvert et clos, où l'intratextualité simonienne s'affirme à travers les reprises stratifiées du cycle du cavalier et du cycle paternel. Malheureusement, dans le Jardin des Plantes, où il n'est introduit qu'assez tardivement, l'intertexte proustien s'inscrit à nouveau, et d'abord à la périphérie de la recherche. Précédé d'une proposition inattendue, dans tout le texte de la recherche, Marcel Proust ne parle jamais de l'existence de Dieu, il s'étoffe enfin, vers la fin du premier chapitre, de quelques fragments de lettres de Proust aux éditions Gallimard et d'une allusion à la sexualité de Marcel Proust. Semblant prêter foi à une anecdote qu'on trouvait, elle évoque Marcel Proust, enfin le narrateur en tout cas, mais non, Marcel Proust même, il ne fait pas la distinction entre le narrateur et Marcel Proust, en train de transpercer d'épingles à chapeau des rats enfermés dans leur cage, alors qu'il est secoué, citation de Simon, secoué par les assauts d'un apache. Cette scène est reprise à la fin du chapitre sous la forme d'une allusion au bordel de Jupien du temps retrouvé, introduite dans la modalité narrative qui caractérise dans ces pages les paragraphes successifs du Jardin des Plantes. On pourra s'interroger sur les motivations sous-jacentes au choix de cette anecdote et de la forme de quasi-témoignage qu'elle revêt. Comme pour mieux la placer sous le signe producteur de sa fiction, cependant, Simon fait immédiatement suivre la première mention de l'homme au rat d'une description de gros rats gris courant sur le sol d'une esplanade qui se révèle elle-même être celle d'un tableau de Poussin, la peste d'Ascrod. Or, l'œuvre de Poussin, artiste privilégié dans l'intertexte pictural simonien, est aussi évoquée dans les propos d'esthétique qui constituent l'un des thèmes du corpus proprement dit des citations de la recherche concentré dans le second chapitre. Constitué de prélèvements, pas toujours alignés dans l'ordre du texte, celle-ci se réfère en effet essentiellement à la scène où le héros reçoit Madame de Cambremer et sa bru au Grand Hôtel de Balbec et aux pages qui suivent cette rencontre dans Sodome et Gomorre. On y retrouve la description des mouettes nymphéas qu'admirait Claude Simon dans son entretien avec Solers, mais aussi le grand peintre du XVIIe siècle, qu'à l'encontre du héros méprise la jeune Madame de Cambremer le Grandin dans son rôle d'avant-gardiste farouche. Caricaturée par l'hypersécrétion de son organe buccal, elle s'exalte à défendre l'impressionnisme musical Debussy et pictural Monet. Or, comme l'a noté Marie Miguet-Aulagnier, la description du passage des heures à travers les touches de couleurs successives des mouettes nymphéas, que Simon disait admirer, s'apparente à un impressionnisme que le nouveau romancier dénonce ironiquement. Aux dernières lueurs du couchant qui teintent de couleurs suaves les mouettes nymphéas. Marie Miguet-Aulagnier met en évidence les thèmes conjoints à ceux de la recherche et à l'œuvre de Simon, sadomasochisme et esthétique, ainsi que le travail de certains motifs de l'intertexte proustien, les rats, mais aussi la couleur des mouettes, et en particulier le rose. Elle conclut fort justement que le Jardin des Plantes est indissociablement un contre-Proust et un hommage à la recherche du temps perdu. Qu'en est-il enfin du tramway ? Si la référence proustienne se réduit ici à quelques occurrences, on peut aussi le considérer comme l'application plus ou moins systématique d'un programme que Proust formule hypothétiquement dans la recherche et que cite le second exergue du texte. L'image étant le seul élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels serait un perfectionnement décisif. Dans sa postface au tramway, Patrick Languet note en effet que, fidèle à ce second exergue, le texte met en œuvre des personnages inattendus qui sont des images. Que dire dès lors des quelques coups de griffe qu'il recèle à l'endroit de celui dont il applique l'idée ? Critique de l'adjectif gomoréenne, du manque de vraisemblance de certaines scènes de la recherche et de certains aspects de son tableau de l'homosexualité, Simon allant jusqu'à mettre en doute la réalité de l'opprobre social qui, selon Proust, s'applique à ses pratiques, en notant qu'elle n'était pas perçue ainsi dans le milieu pourtant très collémenté dont il est lui-même issu. Marie Miguet-Aulagnier remarquait fort justement qu'un aspect de l'hommage à Proust dans le Jardin des Plantes renvoyait à l'écrivain soucieux de l'exactitude des moindres détails de son texte. Mais en se référant à la correspondance de Proust et de Berthe Lemarié à propos de la correction des preuves de la recherche, Simon évoque aussi le lecteur de Proust, déjà fictionalisé dans son œuvre et qu'on découvre ici attentif aux publications nouvelles qui prolonge notre connaissance de la genèse de la recherche. C'est ce lecteur, encore, qui, dans une remarque apparemment anodine, traduit peut-être dans le tramway le travail en nous de l'œuvre proustienne, véritable réserve d'exemplats pour nos propres expériences. Ainsi, d'une fillette dont la fracassante entrée en scène lors d'une scénette montée à l'occasion d'une fête de collège dont la fracassante entrée en scène fit sur lui une impression durable, le narrateur du tramway nous confie qu'il plaqua par la suite à cette image sur celle du seau à pieds joints d'André, la jeune compagne d'Albertine, par-dessus le pauvre vieux assis sur la promenade de Balbec. Il est intéressant de noter que le manque de vraisemblance que dénonce le Simon du tramway, a été apprécié au contraire comme une belle étrangeté du roman proustien, qui se veut aussi réécriture des Mille et une nuits. Comme l'a remarqué Jean Rousset, ce monde, qui refait en les oubliant les contes arabes, est un monde enchanté. Pensons aussi à la croyance celtique, aux âmes enfermées dans des objets, rappelés dans Combray, pour introduire l'épisode de la Madeleine. Un monde, noté pour sa part Emmanuel Lévinas, où les métamorphoses et les évolutions des personnages les plus invraisemblables s'imposent comme les plus naturels. Perceptible dans les contours même de la phrase à accumulation qui, caractérisant les deux œuvres, traduit néanmoins deux problématiques de l'expression de la réalité, le hiatus entre celles-ci, qu'associe tant de points communs, se désigne en fin de compte dans l'estompement du récit, la subordination chez Claude Simon de la fiction à une écriture qui privilégie la description et pour laquelle, dans la conscience, le souvenir est toujours au présent.